Con piacere che do la parola a Pierre Lévy, insomma, filosofo, quindi la parola del filosofo in questo contesto è molto importante perché serve da collante, insomma, nelle varie iniziative.
Bonjour. Alors, je parle français en Italie avec des diapositives en anglais. D'accord. Nous sommes en 2003 et il y a 10 ans, on apprenait que il y avait quelque chose de nouveau qui se passait sur Internet. On pouvait cliquer sur une page qui était contenue dans un serveur à Londres et puis arriver sur une autre page qui était contenue dans un autre serveur qui se trouvait en Amérique ou en Russie ou au Japon. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis souvenu que quelques années auparavant, certaines personnes disaient qu'il était impossible qu'on arrive à connecter tous les ordinateurs de la planète parce qu'ils ont tous des systèmes d'exploitation différents et que donc on n'y arriverait pas. Et j'avais aussi lu des articles scientifiques écrits par des informaticiens qui disait qu'il était impossible de mettre toute la littérature du monde sur un hypertexte parce qu'il n'y avait aucun système de base de données qui était capable de faire ça. Et juste après, quelques années après que des gens très sérieux et très compétents techniquement ont dit que le web était impossible, on a vu le web arriver. Et donc, le World Wide Web existe seulement depuis 10 ans. À l'échelle de l'évolution culturelle, c'est très très peu. Imaginez quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, au milieu du 15e siècle, eh bien, en 1460, on n'avait pas du tout vu les conséquences culturelles de l'imprimerie. On n'avait pas vu encore tout le développement de la science moderne, on n'avait pas vu encore les journaux et la naissance de l'opinion publique, on n'avait pas vu tout ce que l'imprimerie allait transformer dans notre vision du monde. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un moyen de communication dont nous disposons depuis très peu de temps, qui en est certainement au tout début de son évolution technique, il y aura bien d'autres évolutions, et surtout, on en est au tout début des conséquences culturelles, de l'appropriation culturelle de ces technologies. Donc nous sommes à un moment inaugural, 10 ans c'est rien à l'échelle de l'évolution culturelle. Alors, vous voyez le titre que j'ai donné à cette petite présentation, « Du cyberespace à la noosphère ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le cyberespace, c'est l'interconnexion de toutes les mémoires, de tous les processeurs, de toutes les interfaces, de tous les canaux digitaux. Et l'espace de communication que cette interconnexion ouvre. Un espace de communication complètement nouveau. Mais, malgré les efforts, et en particulier les efforts de gens qui sont dans cette salle, un espace de communication qui est encore chaotique, qui n'a pas encore complètement trouvé ses critères de qualité, justement. Et quand on voit tout ce qui se mélange à l'intérieur d'Internet, peut-être qu'on en est... Oui, on est entré dans une nouvelle culture, mais c'est comme avant que la culture se soit vraiment structurée. Avant qu'il y ait, je dirais, la distinction entre le sacré et le profane. Donc vraiment, le moment où une culture est en train de naître, mais où elle n'est pas encore née. Et la noosphère, pour moi, c'est la direction dans laquelle on va, c'est-à-dire le moment où le cyberespace aura, en quelque sorte, accouché d'une nouvelle culture. Et à ce moment-là, ça ne sera plus le cyberespace, ça sera la noosphère. Et puisqu'il s'agit de la naissance d'une nouvelle culture, je suis persuadé que dans les années qui viennent, les gens qui s'intéressent aux sciences humaines, à l'anthropologie, aux sciences sociales, à la littérature, à l'art, à la musique, vont jouer un rôle beaucoup plus important qu'auparavant dans la structuration de ce nouvel espace de communication. Parce que, bien entendu, ce ne sont pas des techniciens ou les techniciens tout seuls qui seront capables de structurer culturellement ce nouvel espace. Techniquement, oui, mais culturellement. Alors, je voudrais mettre en perspective un petit peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, vous voyez, quand l'humanité est apparue, l'écriture n'existait pas. Et la manière de transmettre la culture, c'était essentiellement par des récits, par des mythes, par des rites. Ah oui, merci. Et aussi, bien entendu, par des structures matérielles comme des statues, des outils, etc. Tout ça, c'était le moyen de transmettre la mémoire passée essentiellement par la parole, par le récit. Quand on a inventé l'écriture, évidemment, il y a eu une transformation énorme. D'ailleurs, l'invention de l'écriture, qui a eu lieu d'ailleurs plusieurs fois et sur plusieurs continents, vient presque toujours couronner une évolution qu'on pourrait appeler, que les historiens ont appelé la révolution néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture, l'invention de la ville, l'invention de l'État. Et en général, c'est dans une situation où l'agriculture, la ville et l'État existent déjà que on invente l'écriture, que les Sumériens ont inventé l'écriture, les Égyptiens, les Chinois, les Mayas, etc. Bon. Et là, avec l'écriture, il y a bien entendu une possibilité d'accumulation. Avec l'écriture, c'est la naissance des écoles, c'est la naissance des bibliothèques, c'est la naissance d'une connaissance qui ne prend plus seulement la forme du récit, etc. Bon. Avec l'invention de l'alphabet, on passe encore à un nouveau stade. Pourquoi ? Parce que l'alphabet est un système d'écriture qui comprend une trentaine seulement de signes, et donc c'est beaucoup plus facile à apprendre à lire et à écrire avec l'alphabet qu'avec des systèmes complexes comme ceux des hiéroglyphes ou des caractères chinois qui étaient réservés à des castes spécialisées de professionnels. Avec l'alphabet, presque tout le monde peut apprendre à lire. Pour simplifier, il faut 3 ans pour apprendre à maîtriser l'alphabet et il faut 15 ans pour apprendre à maîtriser les anciens systèmes d'écriture qui étaient avant l'alphabet. Donc, on peut remarquer aussi que lié à l'alphabet, il y a l'invention des grandes religions universelles, du monothéisme, de la science et de la philosophie, de la culture grecque, de la monnaie, enfin, un très grand nombre de grandes inventions culturelles sont liées à l'alphabet. Avec l'imprimerie, eh bien là, bien sûr, il y a une multiplication extraordinaire des supports de la mémoire, ce qui a fait que l'être humain était libéré de ce problème de se souvenir, puisque la mémoire devenait disponible dans des bibliothèques. Et c'est pour ça, probablement, que la science expérimentale moderne s'est développée à ce moment-là. Puisque, comme nous étions libérés de ce problème de la mémoire, on a pu mettre notre énergie cognitive sur l'observation, sur l'expérimentation. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, avec la presse et la naissance de l'opinion publique, l'idée des droits de l'homme, le début des démocraties modernes, etc., la révolution industrielle, bref, une extraordinaire transformation. Et dans la foulée, le téléphone, le cinéma, l'enregistrement du son, les médias électroniques, la radio, la télévision se sont développés. Et nous comprenons aujourd'hui que le développement de tous ces médias électroniques, en fait, est en train de converger dans un nouveau système de communication dont je voudrais énumérer quelques-unes des caractéristiques. Première caractéristique très importante, l'ubiquité. Dès que un signe culturel quelconque, texte, image, musique, programme informatique, tout ce que vous voulez, se trouve quelque part sur le réseau, il est partout dans le réseau. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, l'ubiquité des signes. Deuxièmement, l'interconnexion de tous ces signes. Interconnexion par des liens hypertextes. Virtuellement, tout ce qui se trouve sur le disque dur d'un ordinateur est en communication avec tout ce qui se trouve sur tous les disques durs de tous les ordinateurs. D'accord ? Donc, en fait, on a un espèce de métadocument culturel qui est alimenté, interconnecté, lu, dans lequel on navigue à l'échelle mondiale. Et finalement, troisième grande caractéristique, ces signes culturels qui sont tous interconnectés et qui ont une présence ubiquitaire, ils ont un certain dynamisme, ils ont des capacités d'action autonomes grâce au logiciel. Alors ça fait des transformations dont on n'a pas encore vraiment pris la mesure sur le plan culturel. Et pourtant, je crois qu'on n'a pas encore tout vu. Ce qui manque pour créer une véritable intelligence collective de l'humanité, ou plutôt ce qui manque pour que nous prenions conscience qu'il existe une intelligence collective de l'humanité qui est en train de fonctionner, c'est la conscience précisément. C'est une image qui nous montre la dynamique de cette intelligence collective. Et c'est, je crois, ce qui fera la différence entre le cyberespace et la noosphère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que cette intelligence collective est en train de naître. Bien sûr, c'est encore une minorité de gens qui y participent, mais une minorité croissante. Et je pense que dans quelques années, nous aurons une vision du fonctionnement de cette intelligence collective. Parce qu'aujourd'hui, c'est chaotique, c'est invisible. Bon. Alors, il y a quatre grands facteurs qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui vont continuer dans les années qui viennent à pousser l'évolution. Ces quatre grands facteurs, ils sont aux quatre coins de l'image ici. Donc, l'augmentation des capacités de mémoire, ça certainement, ça va continuer. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il y a une augmentation constante des capacités de mémoire et également une baisse des coûts. la puissance de calcul, elle aussi, elle va continuer à augmenter, et ses coûts vont continuer à décroître. Je trouve plus le mot en français, mais vous le voyez en anglais. Donc, la capacité de transmission, disons, elle aussi va encore s'accroître. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, des capacités de transmission des modems d'il y a 15 ans et de ceux d'aujourd'hui, on a une sensation de la différence, eh bien, ça va continuer à augmenter. Et bien entendu, ça va pas seulement passer par les fils. De plus en plus, cette capacité de communication va être sans fil. Bon. Et finalement, ce qui va aussi continuer à augmenter, c'est le nombre de gens qui vont se connecter au réseau. Alors, tous ces facteurs nourrissent un certain nombre de fonctions. Bien entendu, une fonction de mémoire, une fonction de perception et d'enregistrement, une fonction de communication interactive, une fonction de simulation dans des mondes virtuels, des fonctions de coopération et de coordination de plus en plus développées. Et vous voyez que j'ai mis mémoire, perception, communication, raisonnement, etc. Au fond, ce sont les principales fonctions cognitives. Et, encore une fois, ce qui manque pour parvenir à une intelligence collective, c'est un miroir, une représentation, une conscience de tous ces processus, de manière à ce que nous puissions les réguler d'une façon délibérée, et aussi de façon à ce que nous puissions mettre cette intelligence collective le plus possible au service du développement humain. Bon, le développement humain, c'est la prospérité économique, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation, la santé, et bien sûr, la préservation, la valorisation et la transmission des patrimoines culturels. Alors, comment rendre visible cette intelligence collective? Comment tendre un miroir au cyberespace qui ne nous donne pas une image chaotique, mais une image lisible? Il y a des précédents dans l'histoire des sciences. La géographie moderne n'a pas toujours existé. Si on se reporte au Moyen-Âge, l'image que l'on avait de la Terre était non seulement fausse selon nos critères d'aujourd'hui, mais surtout très différente entre l'image qu'en avaient les Chinois, l'image qu'en avaient les Européens ou l'image qu'en avaient les Mayas. Aujourd'hui, tout le monde partage la même image, c'est une image exacte. Bon. Je ne sais pas si vous vous réalisez l'extraordinaire travail d'exploration, de collecte d'informations, de vérification à partir de procédés astronomiques très complexes qu'il a fallu pour mettre à leur place exactement les côtes de tous les continents sur les cartes géographiques. Ça a demandé plusieurs siècles, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la surface de la Terre est visible. Si vous pensez à tout le développement de la biologie depuis plusieurs siècles, c'est absolument impensable sans microscope. Si vous pensez au développement de l'astronomie, c'est impensable sans télescope. Donc, depuis quelques siècles, nous avons rendu visibles des choses qui étaient invisibles. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons faire avec les ordinateurs, c'est non seulement rendre visible ce qui est très loin ou ce qui est très petit ou ce qui est caché à l'intérieur du corps, comme avec les rayons X, mais c'est surtout, nous pouvons rendre visible des phénomènes hyper complexes. Nous pouvons rendre visible le chaotique. Si vous regardez les données qui sont recueillies par les observatoires radioastronomiques, hein, où vous avez des milliers et des milliers de données numériques qui arrivent à chaque seconde, bon, c'est absolument illisible. C'est parce que ces données sont traitées par des ordinateurs et transformées en images synthétiques que nous pouvons les lire. Eh bien, je suis persuadé que nous pouvons transformer le cyberespace en instrument d'observation de l'intelligence collective humaine, à condition que nous ayons une théorie, mais aussi des moyens techniques pour traiter toutes les données qui circulent à l'intérieur du cyberespace et qui véhiculent notre intelligence collective, notre mémoire, nos transactions, nos flux de communication, etc. Bon.
Alors,
oui, je vois que je parle du web sémantique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va en parler aussi cet après-midi. Donc, l'idée du web sémantique, qui a été lancée d'ailleurs par Tim Berners-Lee, le créateur du World Wide Web, c'est tout simplement que les documents qui se trouvent sur le web ne soient plus adressés par le serveur physique sur lequel ils se trouvent, mais qu'ils soient adressés par la signification du document en question. Autrement dit, l'adressage ne serait plus un adressage physique, ce serait un adressage sémantique. Alors, ce que je propose, c'est de baser cet adressage sémantique sur un modèle de l'intelligence collective. Donc, je reprends le raisonnement. La vie culturelle, la mémoire, la communication, les transactions économiques ou autres passent de plus en plus par le cyberespace. Bon, ça c'est un point. Si on adresse tous ces événements, toutes ces informations, toute cette mémoire qu'il y a sur le cyberespace au moyen d'une ontologie, au moyen d'une classification, au moyen d'un modèle qui permette de montrer l'unité et la signification de toutes ces dynamiques, eh bien, à ce moment-là, nous obtiendrions quelque chose comme une conscience de l'intelligence collective. Et attention, ça ne serait pas uniquement à partir d'un modèle que X ou Y ou telle équipe aurait inventé. Bien sûr, il faut un modèle, mais ce modèle serait alimenté, bien entendu, par des données réelles. C'est ça le point capital. Hein ? Et alors, à ce moment-là, on n'aurait plus cette sensation de chaos ou de labyrinthe dans lequel, sensation qu'on a quand on navigue dans le cyberespace, mais on serait sur un territoire dont on aurait la carte. Évidemment, c'est pas la carte d'un territoire physique, ça serait la carte d'un territoire sémantique, et donc quelque chose de dynamique, mais lisible, compréhensible. Et ça n'est pas parce que nous aurions une ontologie qui nous permettrait, une ontologie, c'est-à-dire au fond un système de classification, ou mieux un système d'adressage de tout ce qui circule dans le cyberespace, ce n'est pas parce que nous aurions un système d'adressage commun que ça nous empêcherait d'avoir une multitude d'autres systèmes d'adressage qui seraient utilisés seulement par des communautés particulières, bien entendu. Le système d'adressage commun serait utilisé pour faire le lien entre les ontologies locales. Donc le but, ce n'est pas du tout de supprimer la diversité culturelle, bien entendu. C'est au contraire de permettre une vision de cette diversité, et donc pour permettre de la cultiver. Donc, comme c'est une idée un petit peu nouvelle, je me permets de recommencer. Vous avez le cyberespace, avec toutes ces données qui sont interdépendantes, interconnectées, toutes ces mémoires qui ont des liens les unes avec les autres, tous ces musées, toutes ces bibliothèques qui travaillent ensemble, hein, toutes ces transactions, tous ces flux, mais c'est pas visible. Alors, vous voyez, il y a une flèche à droite qui monte. Toutes ces données sont organisées, pourraient être organisées par une ontologie commune, basée sur un modèle de l'intelligence collective, et on obtiendrait une image de tous ces processus. Et si on obtient cette image, alors le cyberespace se transforme en noosphère. Noosphère, ça veut dire la sphère de l'esprit. Hein. Et comme vous le savez, c'est un terme qui a été lancé par Teilhard de Chardin. Et on pourrait utiliser cette image compréhensible de notre intelligence collective, cette carte dynamique, on pourrait l'utiliser au service du développement humain. Alors maintenant, le rôle des héritages culturels. Bon, ça, je ne vous l'apprends pas. Il y a une convergence à l'heure actuelle des grandes bibliothèques, des grands musées qui essayent de plus en plus de travailler ensemble. Pour une raison bien simple, et là je reviens au début de mon exposé, c'est précisément ce thème de l'ubiquité et de l'interconnexion. Pour quelqu'un qui habite sur un territoire donné et qui a accès au musée de son territoire, il est évident que, bon, dans cette situation-là, on a tendance à répliquer ce qu'on trouve dans un musée dans un pays et ce qu'on trouve dans un autre musée dans un autre pays. À partir du moment où tout le monde a accès à tout par l'intermédiaire d'Internet, les réplications ont beaucoup moins d'intérêt. Et donc, on a beaucoup plus tendance à vouloir travailler ensemble. Et également, chacun pouvant se spécialiser, on peut faire un travail qui est beaucoup plus en profondeur. Donc, il y a cette convergence. Alors, si cette convergence des musées et des bibliothèques pouvait être le premier noyau, la première graine, le premier bouton de la fleur de la noosphère, eh bien ce serait fantastique. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que la noosphère s'organise autour de son noyau culturel. Et ça serait tout à fait naturel d'une certaine façon, parce que qu'est-ce que c'est les héritages culturels de l'humanité ? Qu'est-ce que c'est les patrimoines culturels de l'humanité ? D'une certaine façon, c'est l'ADN de la culture. Et donc, il serait tout à fait normal que au centre de la noosphère se trouve cet ADN. Et que cet ADN, que ces patrimoines culturels de l'humanité soient valorisés et considérés comme tels. Donc, j'espère que vous mesurez votre responsabilité. Alors maintenant, je vais vous présenter ma religion. Alors, comme on est au 21e siècle, je prends un seul commandement, parce que 10, les gens zappent, c'est trop long. Un seul commandement, tous les patrimoines culturels sont sacrés. Ceux de tout le monde. D'accord ? Tous les patrimoines littéraires, tous les patrimoines artistiques, tous les patrimoines religieux, tous les patrimoines historiques, tous les patrimoines archéologiques, etc. Et je pense que tous ces patrimoines devraient être regroupés à l'intérieur du cyberespace pour constituer précisément le noyau de la noosphère. Alors, s'il y a du sacré, où se trouve le noyau du sacré ? En principe, dans le temple. C'est pas un hasard si la connaissance, l'enseignement, l'apprentissage, la sagesse, historiquement, depuis très longtemps, se trouve à proximité du temple, n'est-ce pas ? Parce que c'est à l'intérieur du temple que se trouve le matériau sur lequel travaillent les gens qui transmettent l'héritage. Comme vous le savez, les universités, au départ, enfin au Moyen-Âge, étaient des organes de l'Église. Alors aujourd'hui, il y a eu, bien entendu, une laïcisation de la connaissance. Oui, mais on dit qu'on rentre dans une société de la connaissance. Donc peut-être que la connaissance, directement, c'est notre nouveau sacré. Et ce qu'il y a de plus sacré dans la connaissance, c'est ce qu'il y a de plus ancien, c'est ce qui a été transmis, c'est la base. Alors c'est pour ça que je pense que le temple de la noosphère doit contenir les héritages culturels de l'humanité. Et finalement, je suis pas du tout contre le marché, d'ailleurs on me le reproche assez souvent. Moi, je suis pour le marché. Bon, mais il n'y a pas que le marché dans la cité, d'accord ? Il y a aussi le palais du gouvernement, et puis il y a aussi le temple, justement. Et il ne faut pas tout mélanger. Alors, je crois que ce qui est dans le temple ne doit pas être donné aux marchands. Enfin, il faut chasser les marchands du temple, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que je suis fermement persuadé que les héritages, les patrimoines communs de l'humanité doivent être considérés comme un bien commun. Et que nous devons tout faire, bien entendu, il y a des contraintes budgétaires, etc. Et bon, il y a aussi des réalités avec lesquelles il faut savoir jouer d'une manière pratique. Mais je crois que le but à atteindre, c'est de mettre tous ces héritages culturels à la disposition des chercheurs, à la disposition des amateurs, à la disposition de tous les gens qui veulent apprendre, à la disposition du public, gratuitement.
Et je conclue.
Voilà, il y a le monde réel. On est dans l'espace physique, on est là. Ce monde réel est fait de distance physique. Vous savez, moi je viens du Canada, j'ai mis presque 24 heures pour venir ici. Je suis très conscient du fait que tout n'est pas virtuel. Et nous avons toujours un corps, nous en aurons toujours un. C'est assez difficile de s'en passer. Et nous allons naître et nous allons mourir. Enfin bref, nous sommes des êtres réels. Mais parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a le langage, parce qu'il y a la pensée, il y a aussi un univers virtuel dans lequel nous communiquons, dans lequel nous communions. Et aujourd'hui, Internet, le cyberespace, matérialise en quelque sorte cet univers virtuel, matérialise cette intelligence collective de l'humanité qui est la nôtre parce que nous parlons. Et c'est pour ça que on n'a pas la même intelligence collective que les fourmis ou les abeilles. C'est pour ça qu'aussi, on a une intelligence collective et on est libre. Bon. Et on est conscient.
Mais est-ce que c'est tout, ça ?
Non, c'est pas tout. Il n'y a pas que ce monde virtuel dans lequel les gens parlent à l'infini. Il y a peut-être quelque chose de plus élevé, quelque chose, je sais pas, un monde spirituel. En tout cas, certainement, une sorte de conscience, une sorte de point de vue plus élevé. On tend vers quelque chose comme une unité. On tend vers plus de connaissances. On tend vers plus d'efficacité, au moins sur le plan technique. Et je crois que si ce monde virtuel accède à une sorte de conscience, accède à une image de lui-même, eh bien à ce moment-là, ça aura un effet très positif sur le développement des idées, sur l'invention, sur l'accroissement de la connaissance. Vous voyez que c'est comme une grande boucle cybernétique. Plus il y a de conscience des processus cognitifs que nous entretenons ensemble, plus nous avons conscience de notre interdépendance, et mieux nous travaillons ensemble. Et mieux nous travaillons ensemble sur le plan du langage, de la pensée, des échanges scientifiques, etc. Et plus il y a de retombées sur le plan tout à fait réel, tout à fait pratique, sur le plan économique, sur le plan de la santé, sur le plan de la qualité de la vie quotidienne, etc. Donc, toutes ces dimensions sont impossibles à séparer. Alors voilà, je vais vous laisser sur cette image de l'intelligence collective et je vous remercie de votre attention.